Talfacho, T-A-L-F-A-C-H-O.
Bonjour et bienvenue, je suis Calix, votre hôte, et vous écoutez Easy Reader. Tout d'abord, merci pour vos retours et vos encouragements concernant le pilote, cela me va droit au cœur. Cette fois-ci, il s'agit du véritable premier épisode, alors prenons le temps de rappeler le concept du podcast. Auteur connu ou inconnu, oublié ou inoubliable, à chaque épisode, vous découvrirez avec moi le ou les premiers chapitres de livres fantastiques, d'horreur ou d'autres styles suivant mon humeur. Et je l'espère, je vous donnerai envie de plonger dans la lecture de ces romans. Afin de rendre tout cela plus interactif, je ne donnerai ni le titre ni l'auteur, et je vous invite pour ceux qui reconnaîtront l'ouvrage et qui l'auront déjà lu, à me contacter via Twitter en DM, @easyreader_, avec un E majuscule à Easy, ou par mail à bruno@talfacho.com. Le titre, l'auteur, un petit résumé et un avis seront à découvrir dans l'épisode suivant. Dans quelques instants, un nouveau roman à découvrir, mais avant ça, revenons au précédent épisode. Ceux qui me connaissent ont très vite deviné qu'il s'agissait de l'introduction de La Maison des Feuilles, de Daniel Z. Danielewski, paru en 2000 chez Pathéon Books. En français, il est paru en 2002 chez Des Noëls, dans une traduction de Christophe Clarot. De quoi ça parle ? En Californie, un tatoueur du nom de Johnny Errand découvre le manuscrit d'un vieil homme aveugle, Zampano. Ce manuscrit traite d'un film, le Navidson Record, où le réalisateur découvre que sa maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur de 3 quarts de pouce, soit 0,635 mm. Bientôt, de nouvelles pièces apparaîtront, menant à ce qui semble être un labyrinthe. Une expédition menant aux frontières de la peur, de la folie, sera alors lancée. L'ouvrage alterne entre le récit du Navidson Record, laissé autour de ce film, et les notes de Johnny. Tout cela pour former un objet littéraire expérimental et unique, dans son fond comme dans sa forme, qui m'a marqué à jamais. Je ne suis pas le seul à avoir été traumatisé par cet ouvrage, et je vais vous citer l'avis de Raven, quelqu'un qui est très cher pour moi. La Maison des Feuilles est un livre très particulier dans sa forme comme dans son fond, qui trouble la frontière entre réalité et fiction, mais qui recèle, pour qui la recherchera, une histoire profondément humaine. Les explorateurs de l'imaginaire adoreront se perdre dans les couloirs de la maison. Personnellement, je ne conçois plus la lecture ni l'écriture de la même manière depuis mon périple en ces murs. C'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, mais que je recommanderais toujours d'essayer. Peu importe que la personne soit lectrice occasionnelle ou bibliophile assidue. Une chose restera cependant toujours sûre. Ceci n'est pas pour vous. Merci Raven pour ton avis. Et maintenant, installons-nous bien dans le canapé, baissons la lumière, ouvrons le roman et commençons la lecture. De toutes les promesses hâtives que l'on se fait à minuit en nom de l'amour, aucune, Boone le savait à présent, n'est plus sûrement trahie que celle-ci. Je ne te quitterai jamais. Ce que le temps ne vous dérobait pas, les circonstances se chargeaient de vous l'ôter. Il était inutile d'espérer le contraire, inutile de rêver que le monde vous voulait du bien. Tout ce qui avait de la valeur pour vous, tout ce à quoi vous vous accrochiez pour garder la raison, finirait par pourrir ou par vous être enlevé, et un gouffre béant apparaîtrait sous vos pieds, tout comme il apparaissait à présent sous ceux de Boone. Et soudain, sans avoir eu droit à la moindre explication, vous disparaîtriez. En route pour l'enfer ou pis encore, avec toutes vos professions de foi et d'amour. Il n'avait pas toujours été aussi pessimiste. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, il avait senti le fardeau de son angoisse mentale s'alléger. Les épisodes psychotiques s'étaient faits plus rares, ainsi que les journées où il aurait préféré se taillader les poignets plutôt que de supporter la longue attente jusqu'à sa prochaine dose. Il lui avait semblé qu'il avait des chances de connaître le bonheur. C'était cette perspective qui lui avait arraché cette déclaration d'amour. Ce « je ne te quitterai jamais » qu'il avait chuchoté à l'oreille de Laurie alors qu'ils étaient étendus sur le lit si étroit qu'il ne l'aurait jamais cru capable d'accueillir deux personnes. Ces mots ne lui étaient pas venus à la bouche au milieu d'un déchaînement de passion. Leur vie amoureuse, tout comme leur relation en général, était accablée de problèmes. Mais là où d'autres femmes avaient renoncé à lui, refusant de lui pardonner son échec, elle avait persévéré, lui avait dit qu'il avait le temps de s'en sortir, tout le temps du monde. Je serai à tes côtés tant que tu voudras de moi. C'est ce que sa patience semblait signifier. Personne ne lui avait jamais offert un tel engagement. Et il voulait en offrir un autre en retour. Ces mots. Je ne te quitterai jamais. Voilà. Le souvenir de ces mots et celui de sa peau presque lumineuse dans la pénombre de la chambre et du bruit de son souffle lorsqu'elle s'était finalement endormie près de lui, tout ceci avait encore le pouvoir de lui saisir le cœur et de le serrer jusqu'à la douleur. Il souhaitait ardemment se libérer à la fois du souvenir et des mots, à présent que les circonstances lui avaient dérobé tout espoir de les concrétiser. Mais il refusait de se laisser oublier. Il le tourmentait encore, profitant de sa fragilité. Son seul réconfort était de savoir qu'elle, sachant ce qu'elle devait à présent savoir à son sujet, allait s'efforcer de l'effacer de son souvenir, et qu'elle y réussirait avec le temps. Il espérait seulement qu'elle comprendrait qu'il ignorait tout de lui-même lorsqu'il lui avait fait cette promesse. Il n'aurait jamais couru le risque de connaître une telle douleur s'il n'avait pas cru que la santé mentale était enfin à sa portée. Rêve donc. Descartes avait brutalement étouffé ses illusions. Il avait fermé à clé la porte de son bureau, baissé le store pour cacher le soleil printanier qui brillait sur l'Alberta, et dit d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, « Boone, je crois que nous avons de graves ennuis, vous et moi. » Boone avait noté que le corps immense du psychiatre maîtrisait mal un tremblement. Descartes avait le physique d'un homme qui va exuder ses angoisses au gymnase en fin de journée. Même ses costumes, taillés sur mesure, toujours de couleur anthracite, était impuissant à domestiquer sa masse, ce qui avait causé une certaine nervosité chez Boone lorsqu'ils avaient commencé à travailler ensemble. Il s'était senti intimidé par l'autorité, tant physique que mentale du docteur. À présent, c'était la faillibilité de cette force qu'il redoutait. Descartes était un roc, il était la raison, il était le calme. Cette anxiété contredisait tout ce qu'il connaissait de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Boone. « Asseyez-vous, voulez-vous, asseyez-vous et je vais vous le dire. » Boone s'exécuta dans ce bureau, Descartes était le maître. Le docteur s'enfonça dans son fauteuil de cuir et inspira profondément par le nez, sa bouche dessinant un pli amer. « Dites-moi, commença Boone. Où commencer ? N'importe où. Je croyais que vous alliez mieux, dit Descartes. Je le croyais vraiment. Nous le croyons tous les deux. Je vais toujours mieux, dit Boone. Descartes secoua légèrement la tête. L'intelligence de cet homme était considérable, mais elle n'était que peu apparente sur ses traits fermés, excepté peut-être dans ses yeux, qui n'étaient pas pour le moment fixés sur son patient, mais sur la table qui le séparait de lui. « Lors de nos séances, dit Descartes, vous avez commencé à me parler de crimes que vous pensiez avoir commis. Est-ce que vous vous en souvenez ?»« Vous savez bien que non. Les transes dans lesquelles le plongeait Descartes étaient trop profondes. Je ne me souviens de quelque chose que lorsque vous faites repasser la bande. » « Je ne ferai repasser aucune de celles-ci, dit Descartes. Je les ai effacées. Pourquoi ?»« Parce que j'ai peur, Boone. Peur pour vous, il observa une pause. Peut-être peur pour nous deux. » La fissure du roc s'élargissait et Descartes était impuissant à la dissimuler. « De quelle sorte de crime s'agit-il ? » demanda Boone d'une voix hésitante. « De meurtre. Vous en parlez d'une façon obsessionnelle. » J'ai cru tout d'abord qu'il s'agissait de crimes oniriques. Vous avez toujours été un homme violent. Et à présent, je crains que vous ne les ayez vraiment commis. Il y eut un long silence, durant lequel Boone étudia Descartes, intrigué plutôt que révolté. Le store n'avait pas été entièrement baissé. Une bande de lumière tombait sur lui et sur la table qui les séparait. Sur sa surface de verre se trouvait une carafe d'eau, deux verres et une grande enveloppe. Descartes se pencha en avant et la saisit. « Ce que je vais faire est probablement un crime, » dit-il à Boone. « Le secret médical est une chose, la complicité d'assassinat en est une autre. Mais il y a encore une partie de moi-même qui prie Dieu pour que tout ceci soit faux. Je veux croire que j'ai réussi, que nous avons réussi, ensemble. Je veux croire que vous allez bien. Je vais bien !» En guise de réponse, Descartes déchira l'enveloppe. « J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ceci, » dit-il. Glissant une main dans l'enveloppe et en retirant une liasse de photographies qu'il exposa à la lumière. « Je vous préviens, ajouta-t-il, elles ne sont pas agréables à regarder. » Il les posa sur la table, les offrant à l'examen de Boone. Sa mise en garde était fondée. L'image placée sur le dessus de la pile lui fit l'effet d'une véritable agression physique. Il sentit monter en lui une terreur qu'il n'avait plus ressentie depuis que Descartes avait commencé à s'occuper de lui. La crainte que cette image le possède. Il avait bâti des murailles pour se protéger de cette peur, brique par brique, mais elle tressaillait à présent, menaçant de s'effondrer. « Ce n'est qu'une image. »« C'est exact, » répondit Dekker, « ce n'est qu'une image. Qui voyez-vous ? » ?»« Un homme mort. Un homme assassiné. » »« Oui, un homme assassiné. » »« Pas assassiné, massacré. » La vie avait déserté son corps par une multitude d'entailles et de plaies. Son sang avait coulé sur la lame qui lui avait tranché le cou et arraché le visage, avait giclé sur le mur qui se trouvait derrière lui. Il ne portait qu'un slip, aussi était-il facile de compter les blessures qui ravageaient son corps en dépit du sang. Ce fut ce que Boone entreprit de faire, pour empêcher l'horreur de l'engloutir. Même ici, dans cette pièce où le docteur avait sculpté un autre moi à partir de la matière brute de son patient, Boone n'avait jamais éprouvé une telle panique. Son petit déjeuner, à moins qu'il ne s'agisse de son dîner de la veille, remontait de ses entrailles au fond de sa gorge, dans un mouvement contre nature. De la merde dans sa bouche pareille à la souillure de cet acte. « Compte les blessures, se dit-il, fais comme si c'était des boules sur un boulier. 3, 4, 5 sur l'abdomen et sur la poitrine. L'une d'elles était particulièrement atroce, évoquant davantage une larme qu'une blessure, si large qu'elle découvrait les entrailles de l'homme mort. 2 autres sur l'épaule. Et puis le visage, défiguré par les plaies, si nombreuses que personne n'aurait pu les compter, même pas le plus détaché des observateurs. Elles avaient rendu la victime totalement méconnaissable, les yeux arrachés, les lèvres tranchées, le nez en lambeaux. « Assez ?» dit Dekker, comme si la question avait un sens. « Oui. » « Il y en a d'autres. » Il découvrit la deuxième photographie, posant la première à côté de la pile. Une femme affalée sur un sofa, les deux moitiés de son corps disloquées d'une façon interdite par la vie. Sans doute n'avait-elle aucun rapport avec la première victime, mais le boucher avait façonné entre elles une hideuse ressemblance. La même absence de lèvres, la même absence d'yeux. Nées de parents différents, les deux victimes étaient parentes dans la mort, détruites par la même main. Et Boone se surprit à penser. « Suis-je leur père ?»« Non, » répondirent ses tripes, « ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Mais deux choses l'empêchèrent de parler. Premièrement, il savait que Dekker ne mettrait pas en danger l'équilibre de son patient sans une bonne raison d'agir ainsi. Deuxièmement, un tel démenti serait sans valeur, car tous deux savaient à quel point l'esprit de Boone s'était déjà abusé lui-même par le passé. S'il était responsable de ces atrocités, il pouvait aussi bien ne pas en être conscient. Il resta silencieux, n'osant pas regarder Dekker de peur de découvrir le roc réduit en pièces. « Une autre ?» dit Dekker. « S'il le faut. » « Il le faut. » Il découvrit une troisième photographie, puis une quatrième, disposant les images sur la table comme s'il tirait les cartes à Boone. Mais toutes les cartes de ce tarot représentaient la mort. Dans la cuisine, gisant près de la porte ouverte du réfrigérateur, dans la chambre, près de la lampe de chevet et du réveil matin, en haut de l'escalier, près de la fenêtre, les victimes étaient de tous les âges et de toutes les couleurs, des hommes, des femmes et des enfants. Quel que fût le démon responsable de leur mort, il ne semblait faire aucune distinction entre elles. Il anéantissait la vie là où il la trouvait, tout simplement. Il n'était ni rapide ni efficace. Les pièces dans lesquelles avaient péri ces êtres portaient les traces bien visibles des jeux auxquels s'était livré le tueur plein d'humour. Les meubles avaient été renversés par les victimes tentant d'éviter le coup de grâce. Leur sang avait éclaboussé les murs et les peintures. L'une d'elles avait perdu ses doigts, peut-être en tentant de saisir la lame qui la menaçait. La plupart avaient perdu leurs yeux. Mais aucune d'entre elles n'avait réussi à se sauver, en dépit de toute la bravoure avec laquelle elles avaient résisté. Elles avaient toutes fini par tomber, qu'elles se soient empêtrées dans leurs sous-vêtements ou qu'elles aient cherché refuge derrière un rideau. Elles étaient tombées en sanglotant, elles étaient tombées en vomissant. Il y avait 11 photographies en tout. Chacune d'elles était différente, pièces grandes ou petites, victimes nues ou habillées, mais elles étaient toutes identiques. Les images d'une folie à l'œuvre, prises après la sortie de l'acteur principal. Dieu tout-puissant, était-il cet homme ? Ne trouvant aucune réponse en lui-même, il posa la question au roc, parlant sans quitter des yeux les cartes étincelantes. « Est-ce que c'est moi qui ai fait ça » dit-il. Il entendit Dekker pousser un soupir, mais rien d'autre ne vint. Aussi osa-t-il jeter un œil vers son accusateur. Tandis qu'il observait les photographies étalées devant lui, il avait senti le regard de l'autre le scruter, faisant naître un frisson douloureux dans son cuir chevelu. Mais ce regard à présent l'évitait. « Je vous en prie, dites-le-moi. » « Est-ce que c'est moi qui ai fait ça ?» Dekker s'essuya les yeux, il avait cessé de trembler. « J'espère que non, » dit-il. Cette réponse paraissait faible au point d'en être grotesque. Ce n'était pas d'une infraction bénigne qu'ils étaient en train de débattre, c'était de la mort, 11 fois donnée, et d'autres fois encore peut-être, loin des yeux, loin du cœur. Dites-moi ce que je vous ai raconté, Diboun. Dites-moi précisément. C'était surtout des divagations. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi le responsable? Vous devez avoir de bonnes raisons. Il m'a fallu du temps pour rassembler toutes les pièces du puzzle, dit Decker. Il regarda le charnier étalé sur la table, alignant du majeur une photo mal placée. Je suis obligé de faire un rapport sur votre état une fois par trimestre, vous le savez. J'ai donc repassé toutes les bandes enregistrées lors de nos séances, en séquence, afin de me faire une idée de vos progrès. Il parlait avec lenteur, avec lassitude. Et j'ai remarqué que les mêmes phrases revenaient régulièrement dans vos propos, enfouies la plupart du temps au milieu d'autres sujets. Mais elles étaient là. On aurait dit que vous cherchiez à confesser quelque chose, mais quelque chose de si atroce à vos yeux que, même en état de transe, il vous était impossible de parvenir à le formuler. Cela apparaissait donc sous la forme d'un code. Boone savait tout des codes. Il les avait souvent entendus durant ces périodes difficiles. Des messages en provenance d'un ennemi imaginaire, entre les longueurs d'onde de deux stations de radio, ou dans le murmure de la circulation avant l'aube. Il n'était guère surprenant que lui-même ait appris à maîtriser cet art. J'ai posé quelques questions en l'air à certains officiers de police que j'avais soignés, reprit Decker. Rien de spécifique. Et ils m'ont parlé des meurtres. J'avais eu connaissance de certains détails par la presse, bien sûr. Cela fait apparemment 2 ans et demi que cela a commencé. La plupart du temps, ici, à Calgary, le reste du temps, à moins d'une heure de route. L'œuvre d'un seul homme. Moi ? Je n'en sais rien, dit Decker, levant finalement les yeux pour regarder Boone. Si j'en avais été sûr, je l'aurais signalé. Mais vous n'êtes sûr de rien. Je ne veux pas y croire, pas plus que vous. S'il s'avère que c'est vrai, ça ne me couvrira pas de gloire. Il y avait en lui une colère mal dissimulée. C'est pour ça que j'ai attendu. J'espérais que vous seriez avec moi quand surviendrait le suivant. Vous voulez dire que certains de ces gens sont morts, alors que vous saviez déjà ? Oui, dit Decker d'une voix atone. Seigneur ! À cette idée, Boone quitta sa chaise d'un bond et sa jambe heurta la table. Les images de meurtre s'envolèrent. N'élevez pas la voix, demanda Decker. Des gens sont morts, et vous avez attendu. C'est pour vous que j'ai pris ce risque, Boone. Ayez un peu de respect pour ça. Boone se détourna de lui, une sueur glacée courait le long de son échine. Asseyez-vous, dit Decker, s'il vous plaît, asseyez-vous et dites-moi ce que ces photos signifient pour vous. Boone avait involontairement porté une main à son visage. Grâce à Decker, il savait ce que signifiait cet élément du langage corporel. Son esprit utilisait son corps pour refouler une révélation, ou pour l'occulter complètement. Boone, il me faut des réponses. Elle ne signifie rien, dit Boone sans se retourner. Rien du tout, rien du tout. Regardez-les encore. Non, dit Boone avec insistance, je ne peux pas. Il entendit le docteur inspirer et s'attendit à moitié à recevoir l'ordre d'affronter de nouveau ses horreurs. Mais la voix de Decker se révéla conciliante. Ce n'est rien, Ron, dit-il, ce n'est rien. Je vais les ranger. Boone pressa les paumes de ses mains contre ses yeux clos. Ses orbites étaient brûlantes et humides. Elles sont parties, Aaron, dit Decker. Non, elles sont encore là. Elles étaient encore avec lui et leurs souvenirs étaient précis. 11 pièces et 11 corps, gravés sur son œil intérieur, au-delà de tout exorcisme. Le mur que Decker avait mis 5 ans à bâtir avait été abattu en 5 minutes et par son architecte lui-même. Boone était de nouveau à la merci de sa démence. Il l'entendait gémir dans sa tête, montant de 11 gorges tranchées, de 11 ventres percés, souffle et gaz digestifs chantant cette vieille chanson folle. Pourquoi ses défenses s'étaient-elles effritées, aussi facilement, après tant de labeur? Ses yeux connaissaient la réponse, et les larmes qu'il versait avouaient ce que sa langue était impuissante à avouer. Il était coupable. Sinon, pourquoi? Ses mains qu'il essuyait à présent sur son pantalon avaient torturé et massacré. En prétendant le contraire, il ne ferait que les inciter à commettre de nouveaux crimes. Mieux valait se confesser, bien qu'il ne se souvînt de rien, plutôt que de les laisser libres d'agir à leur guise. Il se retourna pour faire face à Decker. Les photographies avaient été rassemblées et posées à l'envers sur la table. « Vous vous rappelez de quelque chose ?» dit le docteur, percevant un changement sur le visage de Boone. « Oui, » répondit-il. « Quoi ?»« C'est moi, » dit simplement Boone. « C'est moi qui ai fait ça. » Ainsi s'achève ce moment de lecture. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter en DM sur Twitter, @easyreader_, avec un E majuscule sur Easy, ou par mail à bruno@talfho.com si vous avez reconnu l'ouvrage, que vous l'avez lu, afin de me donner votre avis qui sera ainsi diffusé lors du prochain épisode. Je vous invite également à découvrir nos autres productions sur le site talfho.com, notamment le podcast « Tu aimes les films d'horreur », le podcast « Histoire terrifiante » ou encore la série « Seul dans l'espace ». N'hésitez pas également à venir nous faire un petit coucou sur Twitter, @talfho et @tikalix. Un grand merci à Alt236 et à Al9000 pour la musique. Découvrez leur album Léviathan, c'est idéal pour tous vos moments de lecture. C'était Calix qui vous souhaite de belles découvertes littéraires, de beaux moments de frissons et à très bientôt pour Easy Reader.